Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Bienvenue à cet atelier organisé par le Pacte mondial Réseau France sur la promotion d'une société juste et inclusive, et plus particulièrement sur l'atteinte de l'égalité homme-femme en entreprise. Je suis Cécile Demeux, chargée de mission inclusion et objectifs de développement durable, ODD, au sein du Pacte mondial Réseau France. On va donc discuter aujourd'hui des questions égalité homme-femme, notamment, qui sont un des plus grands défis de notre société aujourd'hui. Et si on a invité plusieurs entreprises à intervenir aujourd'hui, dont vous allez connaître un petit peu plus les enjeux juste après, c'est parce que le monde du travail, c'est un lieu fondamental pour contribuer à cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc il existe de nombreux outils, de politiques et de pratiques à mettre en place. Et ce qui nous intéresse, c'est concrètement comment les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, peuvent se mobiliser pour garantir une participation, un leadership, un salaire égal, entre autres, au sein de leur entreprise. Et surtout, pourquoi ça ne va pas plus vite aujourd'hui, quels freins persistent et quels leviers d'action existent. Je suis donc accompagnée de Fabienne Philippot et Karine Vasselin de Capgemini et de Marie Delannay de l'imprimerie Georges Paris, que je vais laisser se présenter brièvement tout de suite.
Merci Cécile. Donc je suis Fabienne Philippot chez Capgemini. Je suis arrivée en 2000, donc il y a un petit moment dans la société, à différents postes, et j'ai repris depuis 2021. Le sujet ESG, donc environnement, social, gouvernance, au sein du secrétariat général. Et donc je pilote au sein du secrétariat général la stratégie ESG de Capgemini.
Merci Fabienne. Alors on a effectivement deux représentantes de Capgemini ce matin, parce que moi je suis Karine Vasselin. Je travaille beaucoup avec Fabienne, puisque nos sujets sont très liés. Moi je fais partie de l'équipe groupe RSE. Et au sein de cette équipe, je suis en charge du pilier diversité et inclusion. Donc, je coordonne le réseau global et je définis la stratégie pour faire en sorte que, justement, on ait une force de travail qui soit plus représentative de toute la société dans sa richesse, avec un fort accent sur les femmes, bien sûr, et une culture de travail, un environnement de travail offrant plus d'opportunités égales à tout le monde et plus inclusive en termes de culture.
Bonjour à tous, je suis donc Marie Delannay, je suis une des deux dirigeants d'IGP, l'imprimerie Georges Paris. Nous sommes une imprimerie d'étiquettes fournisseur de l'agroalimentaire. Nous sommes une PME familiale, toujours à 100% familiale. Nous ne sommes que 65 collaborateurs, donc une autre dimension par rapport à Capgemini, avec un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. On produit, pour vous donner une idée, 6 milliards d'étiquettes chaque année. Parmi nos 65 collaborateurs, je vais dire seulement un tiers sont des femmes. Et si à la direction, nous sommes deux, mon frère et moi, donc nous avons l'égalité homme-femme, sur quatre générations, donc nous sommes à la quatrième génération, je suis la deuxième femme dirigeante, donc sur quatre générations, mais je suis la première, en fait, à avoir un vrai rôle actif au sein de la société. L'autre étant ma grand-mère, c'était une autre génération. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les trois. Je vous présente donc le programme de cet atelier. Dans un premier temps, je vais vous proposer un rapide état des lieux des égalités et inégalités hommes-femmes en France et à l'international. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelques outils proposés par le Pacte mondial Réseau France comme levier d'action sur les questions égalité hommes-femmes en entreprise. On passera ensuite à une partie table ronde avec les témoignages de Capgemini et IGP. Et puis finalement, à la fin de cet atelier, on vous laissera un petit peu de temps pour poser vos questions aux intervenantes si vous le souhaitez. En ce qui concerne l'état des lieux, il était important pour nous, dans un premier temps, de bien repenser la question égalité homme-femme dans une dimension de RSE et de développement durable, puisque les questions d'inclusion et d'égalité, elles sont vraiment centrales dans la RSE. C'est avec les questions des droits humains au sens large, le pilier social du développement durable. L'égalité homme-femme, comme vous voyez sur la slide ici, c'est vraiment un droit humain fondamental qui a une place toute particulière dans les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies en 2015, les ODD. On a notamment un objectif de développement durable qui est spécifiquement dédié à l'autonomisation des filles et des femmes. C'est l'objectif numéro 5. Et vous voyez qu'il y a également un petit focus qui est fait sur la cible 5.5, la participation et l'accès des femmes aux postes de direction. Les objectifs de développement durable, ils sont universels, interdépendants, et il y a une vraie dimension holistique qui relie ces objectifs entre eux. Du coup, c'est important de préciser que les questions inclusion, égalité hommes-femmes ne se limitent pas à l'objectif de développement durable numéro 5. On peut par exemple, citer la cible 5 de l'ODD 8, relative au travail décent et à la garantie d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc ces questions-là, elles sont vraiment interdépendantes, elles ont une place prépondérante dans chacun des objectifs de développement durable, comme c'est le cas pour les 17 objectifs. Pour vous présenter maintenant quelques chiffres et situer concrètement ces inégalités, égalités hommes-femmes à travers le monde et la France dans un premier temps, vous voyez devant vous deux infographies qui sont issues d'un rapport publié annuellement par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, sur lequel vous pouvez remarquer qu'en 2019, en France, les femmes gagnaient 16,1% de moins que les hommes, ce qui est équivalent à environ 527 euros bruts par mois. On voit qu'entre 2000 et 2019, il y a eu une évolution positive, mais que c'est une égalité salariale et économique qui est encore forte en France aujourd'hui. Si on élargit un petit peu le spectre et qu'on regarde ces écarts économiques à l'international et en Europe, tout d'abord au niveau de la participation sur le marché du travail, sur 100% de la population féminine en âge de travailler, seuls 70,3% de cette population travaille en Europe, contre 79% des hommes à titre indicatif. Et au niveau international, c'est 52,4% de la population féminine en âge de travailler qui travaille effectivement. Au niveau de la participation politique, la disparité entre l'échelle internationale et l'échelle européenne est moins importante, mais elle existe quand même. Sur 100 personnes qui s'investissent en politique, 28,6% d'entre elles sont des femmes à l'international et 31% de ces personnes sont des femmes en Europe. Pour continuer un petit peu et ne pas trop vous assaillir de chiffres, mais c'est important de bien encadrer le sujet. À l'international, donc on a vu la différence avec la France juste avant, les femmes gagnent en moyenne 77% de ce que gagnent les hommes. C'est pratiquement un tiers, donc c'est plus important qu'à l'échelle française. Et ça reste vraiment très très important. Et puis un petit chiffre qui ça peut rester dans votre esprit parce que c'est une date impactante et importante. Si on en reste aujourd'hui au rythme de progrès actuel, l'équité salariale dans le monde sera atteinte seulement en 2086. Pour poursuivre et proposer dans un premier temps des leviers d'action, le Pacte mondial Réseau France et le Pacte mondial des Nations Unies ont mis en œuvre deux outils principaux, les WEPS, les principes d'autonomisation des femmes, et l'accélérateur Target Gender Equality. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces outils, les principes d'autonomisation des femmes, donc les WEPS en anglais, sont des principes qui ont été créés conjointement entre ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies en 2010, avec pour objectif de s'inspirer des normes internationales en matière de travail et de droits humains, pour mettre en œuvre l'idée selon laquelle les entreprises ont un intérêt particulier et surtout une responsabilité en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. C'est donc un ensemble de 7 principes qui orientent et cadrent les stratégies des entreprises si elles souhaitent s'appuyer dessus pour agir pour plus de leadership, d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes en entreprise. C'est une signature, vous le voyez sur la slide, qui est gratuite, qui doit être faite par le plus haut dirigeant de l'entreprise et qui est ouverte à toute entreprise de toute taille et de tout secteur. Pour vous donner quelques chiffres de ce que représentent ces signataires des WEPS, c'est plus de 8300 entreprises signataires à l'international et un petit peu moins de 140 entreprises signataires en France. Capgemini et IGP sont signataires des WEPS, on en parlera un petit peu plus tard dans la partie table ronde. Concrètement, vous voyez ces sept principes, je ne vais pas vous les lire, vous les voyez assez convenablement, mais ce qui est important de souligner sur ces principes, c'est que c'est des principes qui agissent sur l'ensemble des domaines de l'entreprise. On a par exemple le principe 1 qui est lié aux questions de gouvernance, le principe 3 qui est lié aux questions de santé, sécurité et bien-être au travail, le principe 4 sur la formation, le développement de compétences, et je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi des principes qui s'adressent à tout type d'entreprise, et il y a notamment le principe 6 qui concerne, le principe 5 sur les questions d'entrepreneuriat. Pour accompagner les entreprises membres du Pacte mondial des Nations Unies sur l'approfondissement de la mise en œuvre de ces sept principes, le Pacte mondial des Nations Unies a créé il y a 3 ans l'accélérateur Target Gender Equality. Un accélérateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme en ligne entre 6 et 9 mois. Celui-là spécifiquement dure 9 mois. Et il a pour objectif d'aider les entreprises à fixer et à atteindre des objectifs ambitieux qui font progresser l'égalité des sexes et approfondir ces principes, comme je vous l'ai indiqué. C'est un programme qui est gratuit pour les membres du Pacte mondial. On a cette année lancé la première édition française, dont une nouvelle fois Capgemini, IEGP font partie. Après cette mise en contexte rapide d'état des lieux, de chiffres, qui j'espère ne vous ont pas trop découragé sur ces questions d'égalité, d'inégalité, je suis très heureuse donc à nouveau d'accueillir Karine, Fabienne et Marie sur cette table ronde de promouvoir une société juste et inclusive. Quels sont les leviers et les freins pour atteindre l'égalité homme-femme en entreprise ? Donc tout d'abord, je vais proposer à Fabienne de nous indiquer quand et comment Capgemini s'est saisi de cette thématique d'égalité homme-femme et pourquoi vous avez choisi de le faire, quel lien vous faites particulièrement avec les questions de RSE.
Merci beaucoup Cécile pour votre présentation. Et en effet, donc, Capgemini a pris en compte la thématique donc, de l'inégalité entre les femmes et les hommes, ou les hommes et les femmes d'ailleurs, depuis de nombreuses années. Et cette préoccupation s'inscrit complètement dans la stratégie RSE ou ESG, parce qu'on s'interroge, on en parlait tout à l'heure, sur les dénominations que nous pouvons avoir entre la RSE, la CSR ou développement durable et ESG, mais finalement, tout est lié. Et la thématique inégalité femmes-hommes est complètement dans la stratégie du groupe. Pourquoi cette question, le lien avec la RSE ? D'abord, il y a un historique d'engagement chez Capgemini. La société a été précurseuse sur ce thème de la diversité, l'égalité des sexes au sein de son effectif. Et pour ça, Capgemini a mis en place des initiatives visant à attirer, développer et surtout à retenir ses talents féminins, puisqu'on est dans un secteur technologique, ce n'est pas forcément facile. Et on l'a fait bien avant que cette question devienne un enjeu majeur. Donc cela a été mis en pratique grâce à des réseaux internes de femmes, des programmes de mentorat et aussi des objectifs de parité homme-femme que Karine illustrera tout à l'heure. Il y a en deuxième point l'inclusion et la diversité au cœur donc de cette responsabilité sociale de l'entreprise. L'inégalité des sexes est souvent considérée comme un aspect clé de la RSE complètement et les entreprises responsables cherchent à promouvoir l'égalité des chances, à créer des environnements de travail inclusifs et à contribuer à l'élimination des discriminations. Donc Capgemini s'est engagé sur ces principes et c'est la raison pour laquelle je suis avec Karine aujourd'hui puisque c'est notre directrice diversité et inclusion au sein du groupe Capgemini. Et effectivement, si tu as des exemples sur ce thème spécifique ou si on attend tout à l'heure, c'est comme tu veux, mais là on peut peut-être introduire ce que tu fais en termes de diversité et inclusion chez Cap.
On ne voudrait pas être trop long parce qu'on a très envie d'apprendre de Marie parce que je crois qu'effectivement, sur ces thèmes-là, quelle que soit la taille de l'entreprise finalement et le secteur, on se retrouve plus ou moins confronté aux mêmes problématiques. Mais en gros, et pour rebondir ce que vous disiez Cécile, c'est que si on se retrouve aujourd'hui avec toujours ces écarts importants de salaire, c'est essentiellement parce que justement les femmes ne sont pas assez représentées dans les entreprises, ne sont pas assez représentées dans les postes les plus rémunérateurs et aux échelons échelons les plus élevés de l'entreprise. Parce que si on compare à poste égal, finalement, l'écart se réduit. Il est généralement limité à plus ou moins 5%. Mais ce qui fait qu'on monte jusqu'à des écarts de 16%, c'est que les femmes se retrouvent cantonnées souvent un peu plus au bas de l'échelle ou alors au niveau de middle management et dans des fonctions qui sont effectivement moins exposées, moins rémunératrices. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est justement non seulement avoir des objectifs de représentation des femmes dans l'entreprise, et on a un commitment externe d'avoir à minima 40% dans nos effectifs. On est aujourd'hui à environ 38%, et on a une croissance d'environ 2% par an. Et effectivement, plus on s'approche de cet objectif, plus c'est difficile de continuer à avoir ce rythme. Mais au-delà de la représentation donc dans l'entreprise, on essaye justement d'avoir une granularité plus importante pour qu'on s'assure que les femmes soient pas uniquement dans les fonctions support, mais bien dans les fonctions techniques, bien dans les fonctions de vente et auprès de nos clients. On s'assure qu'elles soient justement bien représentées à tous les grades de l'entreprise, et on a des objectifs justement spécifiques pour les porter vers les fonctions d'encadrement et de leadership. Par exemple, on a comme objectif interne que au moins 30% de toutes celles qui atteignent le grade le plus élevé, de tous ceux qui atteignent le grade le plus élevé, que ce soit en interne par promotion ou par recrutement, soient des femmes. Et d'avoir des objectifs justement très ciblés, pays par pays, grade par grade, qui sont suivis tous les mois, qui sont même dans les objectifs de performance des dirigeants, ça aide beaucoup à maintenir la pression. Et avec cette pression, finalement, on devient plus créatif. Parce que quand on a un objectif de résultat, ça nous force justement à être créatif et à trouver des vraies mesures d'accompagnement. Et ces vraies mesures d'accompagnement, elles doivent adresser ce qu'on appelle toute la talent value chain de l'entreprise, c'est-à-dire du recrutement aux promotions, aux formations et à la rémunération. On doit, de manière holistique, comme vous disiez, Cécile, aborder tous ces aspects. Et donc, concrètement, par exemple, dans le recrutement, comme on a du mal à trouver beaucoup de femmes dans la tech, on s'efforce d'adresser des pools de talents qui sont parfois un peu moins spontanés ou faciles d'accès. Donc, par exemple, on encourage beaucoup de femmes qui veulent reprendre une activité après un arrêt, pour souvent des raisons familiales, à nous rejoindre, faire un programme d'upskilling et à entamer une seconde partie de carrière. C'est des programmes qui s'appellent Captivate chez nous. On s'adresse aussi à des pools de talents parfois un peu moins évidents. Donc on recherche de moins en moins de uniquement à recruter dans les grandes écoles, mais on va justement dans des formations qui sont plus universitaires, quitte à ce qu'après on les équipe nous avec un background un peu plus technique. Mais dans ces formations-là, on trouve plus spontanément et plus naturellement des femmes. Et après, une fois qu'elles sont chez nous, effectivement, il faut faire en sorte que non seulement elles se projettent elles-mêmes dans une carrière, en ayant envie de rester. Et effectivement, là, les programmes d'employés, de ressources groupes ou de groupes d'employés comme Women at Capgemini leur donnent des rôles modèles, leur donnent des trucs et astuces, leur donnent des opportunités de networker, d'avoir des marraines pour justement se rendre plus visible, plus exposé et avoir plus de chances justement d'accéder à des postes d'encadrement. Mais ça ne suffit pas, ça ne doit pas forcément reposer sur les femmes elles-mêmes, mais c'est notre rôle aussi en tant qu'entreprise justement d'organiser des programmes de soutien, des programmes de développement, et encore une fois, avec les data, avec les KPIs, de s'assurer qu'à chaque round de promotion, on a bien regardé tous les gens qui étaient éligibles en fonction de leur ancienneté, de leur performance, et que ce ne soit pas simplement des listes un peu spontanées qui viennent dans l'esprit des managers. Parce que quand on fait ce genre de choses, quand on sent qu'il y a un backup par les data, on a tendance à oublier des gens qui spontanément ne lèveraient pas la main ou spontanément seraient un petit peu plus discrets ou alors on aurait tendance à considérer qu'ils ont encore le temps pour être éligibles à la promotion. Donc c'est vraiment cette approche d'adresser toutes les étapes du cycle de l'employé qui doit être mise en œuvre, et avec un mélange à la fois d'initiatives support, mais aussi d'objectifs et de KPIs très concrets et très mesurés et très impliquants pour les managements.
Merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup Karine. Marie, vous êtes issue d'une PME. Quels sont vos enjeux? Pourquoi vous vous êtes saisie de cette thématique également?
Alors nous, on a une démarche forte en RSE depuis seulement, on va dire, 2-3 ans. On a notamment une démarche de labellisation de print éthique qui est notre label RSE de branche de l'industrie graphique. On est une des rares branches à avoir un label RSE, donc on avance là-dedans. Et si on a choisi d'avoir une forte démarche en RSE, c'est pas parce qu'on avait la pression des clients. Ce qui est le cas, nos clients sont indirectement la grande distribution, ce sont de grosses industries de l'agroalimentaire, donc qui eux-mêmes ont des pressions. Et bien sûr, il fallait leur répondre de manière structurée, mais aussi parce que nous, en tant que dirigeants, donc nous sommes frères et sœurs, nous sommes une famille, nous sommes dans une petite ville, Nuits-Saint-Georges où on est, c'est 5000 habitants. On est dans une communauté locale, voilà, donc relativement resserrée, c'est pas la grande ville. Et pour nous, l'humain et la planète n'ont vraiment d'avenir que si on s'y met tous. On est tous acteurs du développement durable. Et même notre petite PME peut avoir un impact concret. On connaît chacun de nos collaborateurs et chacune de nos collaboratrices. Ils font partie de notre communauté locale. Donc ça veut dire que dès l'instant où on va travailler à l'égalité femmes-hommes dans notre entreprise, ça va être aussi promouvoir l'égalité femmes-hommes dans notre communauté locale et la faire plus juste et plus inclusive. Donc du coup, notre petite PME a un impact. Et qui dit dans la communauté locale, CSEM forcément plus ou moins à plus grande échelle. C'est amusant parce que finalement, on a un petit peu les mêmes problèmes, même quelle que soit la taille de l'entreprise, à savoir avoir cette égalité homme-femme déjà en nombre. On a aussi un métier qui est très, très genré. L'imprimerie, alors surtout nous, puisqu'on fait de l'industriel, on a de grosses machines, on a des grosses palettes de papier, donc les femmes sont très sous-estimées, et je dis vraiment sous-estimées, c'est le mot, et donc elles sont sous-représentées. Et tout l'enjeu, justement, c'est de promouvoir les femmes dans ces services-là. Elles sont uniquement dans les services de finition, qui sont des services qui demandent peu de compétences, et donc qui sont les moins bien payées. Donc, à nous, entreprises, de leur permettre de se former, de leur donner envie de se former et de leur montrer qu'elles sont capables aussi de progresser, même dans un métier très masculin. Voilà, c'est vraiment l'enjeu qu'on a en tant que PME au niveau de l'égalité homme-femme. On retrouve quand même les mêmes soucis. Et on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que l'impression, quand vous allez dans un service d'impression, il n'y a que des hommes, 100% d'hommes. Et le problème vient aussi des écoles, puisque c'est un métier qui s'apprend quand même un petit peu à l'école. Beaucoup d'entreprises, mais quand même à l'école. Et c'est aussi aux écoles de promouvoir cette diversité femmes-hommes, de montrer aux femmes que oui, elles peuvent faire ce type de métier. Ça n'a rien de difficile. On a eu des stagiaires dans ce service-là. On a eu des alternantes. C'est totalement envisageable.
Merci Marie, comme vous l'avez dit, on voit que les enjeux sont très communs, qu'on soit dans une PME ou dans une grande entreprise. On a parlé tout à l'heure des principes d'autonomisation des femmes, des WEPS, qui sont ouverts à la signature des PME comme des grandes entreprises. En février 2011, Capgemini est devenue signataire des WEPS. Ça a été une des premières entreprises françaises et une des premières entreprises à l'international. Fabienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en 2011 Capgemini a choisi de signer les WEPS et sur plus de 10 ans, quelle mise en œuvre avez-vous faite ?
Merci Cécile. Donc effectivement, Capgemini a signé donc en février 2011 ses principes d'autonomisation des femmes pour s'engager. Il y a une histoire d'engagement pour cette égalité, pour l'autonomisation des femmes au sein de la société. Et on l'a fait parce que l'importance de l'égalité des sexes au sein de l'entreprise est primordiale. C'est un impératif à la fois commercial, mais aussi social. Et c'est une déclaration publique de l'engagement de Capgemini sur ce thème et à travailler activement pour promouvoir donc l'autonomisation des femmes au sein de son organisation et surtout au sein de son secteur qui n'est pas l'imprimerie mais qui est le secteur technologique et qui a été très souvent sous-représenté en termes de femmes. Ensuite, on voulait aligner cet engagement avec l'objectif, enfin l'ODD 5, des Nations Unies, justement, qui vise à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et donc, en signant les WEPS, on contribue à atteindre cet objectif mondial. Ensuite, le fait d'être signataire des WEPS nous permet d'avoir un cadre réglementaire, cadre juridique, un cadre de travail qui est important pour nos managers aussi, pour définir l'action en faveur de l'égalité des sexes. Et ça nous fournit également des principes directeurs que nous devons suivre. Et ça aide à poursuivre le travail en interne sur tous ces sujets clés qui font partie donc aujourd'hui également de notre politique ESG qui est sortie en décembre 2011. Ça permet évidemment d'améliorer la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. On met au point des politiques, des programmes grâce à ça qui nous permettent ensuite de pouvoir publier des indicateurs de performance parce qu'aujourd'hui ce qu'on attend de nous c'est de mettre en place des politiques, des programmes mais aussi de mesurer le travail sur tous les sujets concernés et sur ce sujet en particulier. Donc c'est la raison pour laquelle, et Karine l'a précisé tout à l'heure, nous avons un objectif pour l'effectif global, donc d'atteindre l'égalité homme-femme, et aussi au sein des comités exécutifs, parce qu'évidemment, il faut être, faut que les femmes soient aussi représentées au sein des comités exécutifs. Et le fait d'être aussi signataire des WEPS, ça nous permet une transparence et une responsabilité. C'est-à-dire que comme nous devons reporter, nous devons expliquer à toutes nos parties prenantes, aujourd'hui les parties prenantes sont clés, donc les parties prenantes évidemment internes, avec nos employés, mais externes aussi avec nos clients, avec la société civile, on se doit de promouvoir et d'expliquer tout ce que l'on fait et comment on avance sur ces sujets.
Merci Fabienne. Marie, IGP est également signataire des WEPS, alors depuis beaucoup plus récemment, puisque ça date du 8 mars 2023. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, premièrement, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date très spécifique, très symbolique, et pourquoi, si récemment, vous avez choisi de signer les WEPS ?
Alors, je ne connaissais pas les WEPS, et on voulait vraiment faire quelque chose de symbolique le 8 mars pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Et je pense que c'est en me baladant sur le site du Pacte mondial, de fil en aiguille, effectivement, j'ai découvert les WEPS. Et j'en ai discuté donc avec mon frère, co-dirigeant. Et on s'est dit, ben voilà, on doit s'engager et on va s'engager de cette manière-là. Ça nous paraît effectivement une manière concrète de s'engager en faveur des femmes. Et finalement, ça devient cet engagement, cette signature, donc affichée, expliquée à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et c'est devenu en fait une superbe ressource d'idées, de conseils, de direction. On a rempli le questionnaire, je l'ai re-rempli récemment. En quelques mois, c'est sûr que la vision s'affûte en plus et se précise. Et ce questionnaire, en fait, balaye tout un ensemble de thèmes que nous, petites structures, on voit peut-être pas forcément, on ne pense pas forcément. Et ça nous donne aussi un plan de travail qui nous... Ça nous donne, voilà, ça nous permet de faire une avancée avec les différentes questions, et cette avancée nous permet de faire un plan d'action derrière. C'est vraiment un bel outil quand on n'est pas très nombreux au service RSE. Et c'est sympa aussi d'être signataire et de s'engager comme ça. Et c'est vrai que les femmes de l'entreprise ont été surprises, et parce que ce n'est pas connu, en plus, ce n'est vraiment pas connu. On n'en entend pas parler dans les médias, même le Pacte mondial, le Global Compact, on en entend peu parler. Et du coup, les femmes se sont senties, ah ouais, ah mais il y a ça qui existe. On n'est pas toutes seules. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau mondial qui se passe quand même. Et ces messieurs étaient aussi... ah oui. Donc voilà, ça, c'est planter des petites graines aussi. C'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi planter des petites graines à côté.
Merci Marie. Donc on l'a vu, vous êtes deux entreprises très engagées et en plus d'avoir signé les WEPS, vous avez choisi à partir de juin dernier de participer à l'accélérateur Target Gender Equality. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix après des années ou plusieurs mois d'engagement ? Voilà, vous avez renouvelé votre engagement et voulu accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques au sein de vos entreprises. Marie, peut-être comme vous avez le micro. Oui.
Quand il est sorti l'accélérateur, ça m'a paru complètement évident d'y participer parce que c'est dans la ligne de travail. Ça permet voilà d'avoir encore du support. C'est vrai qu'en tant que PME, on a besoin voilà de structures qui nous offrent des formations, des accélérateurs, enfin voilà tout ce qui peut nous aider. Et là c'est vraiment super. Et ça permet aussi de partager avec des pairs, avec toutes sortes d'entreprises. C'est intéressant avec des personnes vraiment pointues dans leur domaine aussi. Donc là, c'était évident d'en faire partie. Et donc, mon frère est le second, mon co-participant à l'accélérateur. Donc voilà, les deux dirigeants sont dedans. Et voilà.
Un regard un petit peu différent, c'est que... On a, enfin, chez Capgemini, comme je vous ai dit, on veut vraiment essayer de faire en sorte que notre force de travail et nos employés soient à l'image de la société, parce que c'est à l'image de nos clients, c'est à l'image des gens qu'on est amené à recruter. Et du coup, on a élargi, bien sûr, notre champ d'action et notre scope au-delà des femmes, pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap, les personnes d'origine modeste, les personnes d'origine ethnique, les gens qui ont des accidents de vie dans leur parcours, et aussi l'opportunité d'avoir plus accès à des postes dans la tech, comme dans notre entreprise, parce qu'on considère qu'il y a un risque, sinon, de vraies fractures digitales et vraies fractures sociales, puisque tous ceux qui n'ont pas un minimum de bagage digital seront difficilement employables sur le futur et du coup seront en grosse difficulté d'insertion. Mais du coup, en élargissant ce scope, on s'est dit ce qui on risque pas de perdre un peu le focus sur les femmes. Or, en fait, les femmes, justement, sont plurielles. C'est aussi des femmes parfois en situation de handicap, parfois des femmes de couleur, parfois des femmes d'origine sociale modeste. Donc, de toute façon, en élargissant notre scope, on ne perd pas de vue ce zoom sur les femmes. Et puis, c'était aussi le fait de l'accélérateur de dire, bah justement, on doit accélérer cette dynamique, on doit garder ce focus, parce qu'on n'y est pas encore. Et même si on est à 38%, certains pourraient dire, bah, on y est presque, on va passer à autre chose. Non, en fait, on s'aperçoit que dès qu'il y a un petit coup de frais économique, hop, comme par hasard, la proportion des femmes dans les nouvelles recrues diminue. On s'aperçoit aussi qu'à l'extérieur, dans certains pays, malheureusement, l'agenda politique et législatif fait en sorte que les droits des femmes peuvent être remis en question. Donc en fait, on ne peut pas s'endormir sur nos acquis. On avait besoin de ce coup de boost, cet accélérateur pour dire ça reste une préoccupation, on doit continuer l'engagement. Et cet engagement, de toute façon, il bénéficie aussi à d'autres populations qui aussi doivent être plus insérées sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est aussi une de grandes convictions, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'opposition hommes et femmes, et tout progrès qu'on fait initialement au service des femmes, finalement, bénéficie à tout le monde. Parce que quand, après le Covid, on a travaillé sur notre politique de flexibilité au travail, la possibilité de travailler en horaire plus décalé ou plus à distance, on s'est dit, ah bah, c'est super, ça va nous permettre d'attirer plus de femmes. Mais pas seulement. En fait, tous les salariés et les hommes les premiers sont ravis de ce changement et finalement voient que les efforts qu'on mène ne sont pas uniquement à destination d'une population, mais font progresser l'ensemble du confort et du bien-être au travail de tous.
Merci Karine. Je pense que là, vous avez eu affaire, comme vous voyez, à quelqu'un qui est très motivé et qui connaît très bien son sujet. Et c'est vraiment important parce que quand on est dans un grand groupe, alors peut-être pareil dans une plus petite société, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faut toujours éduquer nos managers sans cesse, qu'on soit un petit ou un grand groupe. Et c'est pour ça, comme le précisait Karine, tout ce qu'on fait pour les femmes aujourd'hui ou pour toute autre discrimination est valable pour la population dans son ensemble. Et je dirais, l'accélérateur, on s'était posé la question quand il est sorti, en disant, nous, grande société, est-ce qu'on a intérêt à y participer ? Et je pense Donc vous avez eu la réponse de Karine, sans aucun doute. Et surtout, ça nous permet aussi, grande entreprise, de travailler sur l'innovation, parce qu'on se dit qu'on va, on va nous apporter de nouvelles solutions auxquelles on n'aurait pas pensé seul. Ça nous apporte aussi du réseau et des partenariats. Sans ça, on ne pourrait pas rencontrer d'autres entreprises de d'autres tailles. Et on rencontre Marie aujourd'hui qui est dans cet accélérateur. Et on sait à quel point le réseau et les partenariats sont importants pour pouvoir avancer sur de nombreux sujets. Ça donne aussi de la visibilité et de la crédibilité. Ça nous permet de voir ce que font les autres, de comprendre comment ils s'adressent à leurs managers, etc., pour faire avancer tous ces sujets, et d'avoir des ressources supplémentaires. Donc, qu'on soit petite ou grande entreprise, je pense qu'il y a un intérêt forcément de participer à cet accélérateur.
Voilà. Merci à toutes. Il nous reste quelques minutes avant de laisser à la salle l'opportunité de poser ses questions. Donc j'aurai pour vous trois une dernière question. Karine, vous avez déjà un petit peu introduit des bonnes pratiques tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez d'autres bonnes pratiques phares ou programmes à partager pour promouvoir ces questions en entreprise ? Donc Karine ou Marie, si vous le souhaitez, spécifiques aux PME pour accélérer ces pratiques en entreprise.
Alors nous, on n'a pas de programme phare. Peut-être un jour, on aura des programmes. Mais non, des bonnes pratiques, oui, on en a. Par principe, maintenant, ce qu'on ne faisait pas attention avant, et c'est pour ça que je dis maintenant, on va essayer d'avoir autant d'alternantes que d'alternants. Et essayer notamment d'en avoir dans les services exclusivement masculins. On va essayer d'avoir des stagiaires femmes dans les services masculins. On va faire attention aussi aux horaires. Alors, ça peut être un petit peu compliqué. Dans les bureaux, ce n'est pas très difficile. Mais il y a 15 ans, quand nous n'étions pas à la tête de l'entreprise, les horaires, c'était les horaires. Et si ça ne correspondait pas aux horaires de l'école ou du périscolaire, c'était plus compliqué. Nous, on n'est pas la demi-heure près. Avec mon frère, on voit ça comme ça maintenant. C'est que voilà, s'il vaut mieux commencer à 9h plutôt que 8h30 parce que c'est plus facile pour le périsco, pour la maman, oui, et ça va franchement pas nous poser de problème. Et nos clients ont les mêmes problèmes que nous. Donc ça, on fait très attention. Et comme on a quand même toute la production qui est en poste, là, c'est plus compliqué au niveau des horaires, mais on va faire plus attention si on a des couples, ça nous arrive d'avoir des couples qui ont encore des enfants, on va les arranger pour mettre chacun dans une équipe qui puisse vraiment s'organiser facilement pour les enfants la journée. Voilà, c'est toutes des choses qui vont faciliter la vie des femmes, pas seulement en entreprise, mais autour, parce que finalement, c'est toute cette charge autour qu'il peut y avoir. Et tout à l'heure, on disait, ça vaut aussi pour les hommes. C'est vrai que dès l'instant où on va faciliter un travail pour qu'il devienne accessible aux femmes, ce que nous essayons de faire beaucoup au sein de la production, fatalement, ça va être intéressant aussi pour les hommes. Ça va nous faire revoir notre process, nos matériels, nos choses comme ça. Et ça va être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Au niveau de la formation, on essaye vraiment d'être attentif maintenant à proposer des formations à toutes les femmes et pas juste des formations, un petit coup de SST, histoire de dire que tu as fait une formation, un petit peu d'informatique, histoire de dire que tu as fait une formation, mais vraiment de la formation qui va leur permettre de progresser dans l'entreprise. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en production, pour l'instant, en grande majorité, ce sont des gens de finition. Donc non, le but, c'est de monter en compétences pour pouvoir monter en poste et en salaire et en responsabilité, etc., etc. Donc ce sont toutes ces petites choses-là. Ce sont des programmes qui ne sont pas écrits. Et ça, c'est la difficulté des PME. C'est que, et d'autant plus quand c'est une PME familiale, on fait peu de réunions avec mon frère parce que tout de suite la communication se fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas documentées, alors qu'on fait des choses. Et c'est en ça que c'est bien aussi l'accélérateur et d'avoir signé les WEPS, parce que ça, c'est pas que ça nous oblige, mais ça nous aide à écrire. Et à partir de là, on peut mesurer et on peut acter derrière et s'améliorer.
Je sais, on a sûrement des bonnes pratiques, on essaie d'échanger, mais en termes de conviction, moi, je crois beaucoup à deux mouvements qui se rejoignent. C'est le mouvement qui vient du top leadership, qui montre l'exemple et qui explique aussi sa situation. Donc c'est déjà parmi nos top execs féminins qu'elles racontent leur parcours, qu'elles ne cachent pas leurs difficultés, hein, parce que des fois elles en ont quand même ramé pour arriver là, mais qu'elles montrent que c'est possible et que ça change. Par contre, ce n'est pas uniquement à nos leaders femmes de montrer l'exemple, c'est aussi à nos leaders hommes et notre CEO le premier de faire en sorte que bah, justement, il s'engage dans les actions par ses signatures, par les financements qu'il accorde au programme de formation, par le fait qu'il soit très très strict justement sur les KPIs et leur suivi, et le fait que on devient de plus en plus granular pour que vraiment les choses bougent et se traduisent concrètement, et par sa participation à des programmes sur les biens inconscients, à des cercles de réflexion justement et de discussion avec les employés sur la diversité. Donc vraiment s'impliquer, montrer que il y croit, il fait des choses. Et le leadership aussi, c'est super important. Mais ce à quoi je crois le plus, c'est l'aspect bottom-up, les remontées du terrain. Et donc tous les témoignages qui nous sont remontés, soit en direct dans les employee surveys ou par justement les réseaux d'employés, mettent le doigt sur des vraies difficultés au quotidien, dans les équipes, dans le management, dans l'organisation du travail. Et justement, en prendre conscience, les écouter, ça nous permet parfois concrètement de faire des changements dans nos politiques, hein, dans nos politiques justement de bénéfices sociaux, mais aussi dans nos modes politiques d'organisation du travail, dans les politiques de mobilité. Par exemple, une fois j'étais alertée très récemment par une collaboratrice en Inde qui se plaignait parce qu'elle était revenue très tard d'un déplacement, et la politique de remboursement des frais faisait qu'elle ne pouvait pas prendre un taxi ou pas être remboursée. Et tout de suite, elle nous a remonté ça et on s'est dit mais pourquoi ? Effectivement, enfin, c'est une règle stupide, ça la met en danger, ça freine certaines fois, enfin, certaines personnes, justement certaines femmes, de ne pas vouloir faire des voyages et donc de faire des rôles où justement on a besoin de faire des voyages, et donc ça leur freine des opportunités. Et en fait, très rapidement, on a réétudié cette politique, on a questionné le pourquoi du comment et on a réglé ce problème-là. Et on l'aurait pas eu en visibilité si on n'avait pas eu de cette remontée directe du terrain par un cas particulier qui peut, je dirais, faire un peu jurisprudence. Donc il faut que ce soit pragmatique, il faut que ce soit vraiment concret et pas simplement des principes, des engagements ou des signatures. C'est les deux qui marchent ensemble, en fait.
Merci beaucoup, Karine, et merci à toutes les trois. Oui, Fabienne, est-ce que vous voulez compléter ?
Compléter. En fait, ce qui est important, et je pense que ça peut aider aussi une société, une plus petite société, c'est qu'effectivement, on a mis en place des outils pour que l'information remonte, comme l'expliquait Karine. Donc ça, c'est vraiment important. On fait des enquêtes auprès de nos employés. Ce sont des enquêtes mensuelles et il y a 10 questions et ça tourne, parce que tous les salariés ne répondent pas, évidemment, mais l'idée, c'est que ça tourne et que là, il y ait des sujets qui reviennent, et on change de thème aussi régulièrement pour que on ait le plus de réponses possibles. Donc ça, c'est vraiment, ça nous aide beaucoup. Et il y a ce qu'on appelle, nous, un outil d'alerte, hein, qui s'appelle le Speak Up chez nous, et qui est anonyme. C'est un outil externe, donc ça, c'est aussi très important, et ce qui permet aux employés de signaler tout problème. Donc je ne sais pas si c'était via Speak Up que ce cas a été remonté, mais et voilà. Et ça nous aide beaucoup pour justement aménager nos politiques, parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'écriture qui compte, ce sont les faits. Et voilà, donc ça peut donner des idées, mais c'était vraiment important pour nous. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, il nous reste quelques petites minutes pour quelques questions. J'ai déjà vu des mains qui se levaient. Je vais vous faire passer un micro.
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Il me semble avoir entendu parler de mentoring tout à l'heure. Je crois que vous avez un programme de mentorat au sein de Capgemini. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur son organisation, sur les actions que vous mettez en place concrètement et qui accompagne les binômes mentors et mentorés, s'il vous plaît?
Alors effectivement, il y a des programmes de mentorat. Donc pour tout vous dire, ça fonctionne par grade. En fait, dans la société, on va du grade A au grade E, et ensuite il y a F pour VP et EVP. Et en fait, l'idée du mentorat, c'est qu'un grade, par exemple E, va mentorer un grade inférieur, pour l'aider, pour savoir d'abord où cette personne se situe dans la société, ce qu'elle aimerait faire. Et l'idée du grade supérieur, qui n'est pas forcément dans le même secteur d'activité d'ailleurs. Et là, moi, je connais ce programme au sein des femmes. Ça doit exister au sein des hommes, mais en tout cas, pour les femmes, ça existe. Et on m'avait demandé de devenir mentor d'une personne qui était d'un grade inférieur et qui était d'ailleurs aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'était vraiment... moi, au siège, quelqu'un aux États-Unis dans l'opérationnel, moi, fonction support. Et on partage nos expériences, de voir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont nos chemins. Et la personne en face nous explique ses difficultés. Voilà, elle aimerait passer un grade ou faire une autre mission et comment l'aider. Donc ça a été mis en place depuis assez longtemps. Et ça tourne et ça vient par les réseaux internes, tout simplement. Lorsqu'on fait une formation, il y a beaucoup de formations aussi. Et lors des formations, on nous demande à la fin, est-ce que vous pouvez devenir mentor de quelqu'un et puis en fonction du temps qu'on peut allouer, on le fait. Donc voilà, mais ça existe fortement, oui, au sein de chez Capgemini.
Et en plus de ces relations binomiales, est-ce que vous avez, dans le cadre de ces programmes de mentoring, des réunions, des after-work, vous faites du networking, est-ce que vous proposez des formations dans le cadre de ce programme de mentoring ? Où ça s'arrête à la relation binomiale et c'est déjà pas.
Alors là, ça s'arrête à cette relation, mais en plus de cela, il y a, Karine l'a mentionné tout à l'heure, ce qu'on appelle Women at Capgemini. Donc là, c'est un réseau interne et qui s'ouvre à l'externe aussi, hein, c'est-à-dire qu'on fait aussi venir des intervenantes externes pour expliquer leur parcours. Donc on a, et puis pour toutes les formations, il y a des formations effectivement réservées aux femmes, mais pas que, parce qu'encore une fois, c'est important de partager aussi les pratiques et de savoir ce que les hommes pensent aussi de nos programmes de formation, mais tout est transverse et ouvert à l'ensemble de la population. Mais c'est vrai qu'on a mis en place pas mal de choses entre les réseaux internes, réseaux externes, programmes de mentoring et interventions aussi dans d'autres conférences.
Deux initiatives qu'on a faites l'année dernière, par exemple, c'est qu'on a fait un podcast en partenariat avec quelqu'un d'externe sur My Fair Value, c'est-à-dire c'est apprendre aux femmes à prendre conscience de leur valeur marchande sur le marché, et savoir négocier une augmentation, savoir négocier son salaire d'embauche. Alors au départ, on a eu un peu la réticence des RH en disant « là, vous allez vous créer de l'inflation ». Mais finalement, non, ça s'est très bien passé. Et puis, un autre programme qu'on a mis en place cette année, c'était des espèces de webinars masterclass sur justement le sentiment de... le plafond de verre, le sentiment de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui participaient, parce que c'est ouvert à tout le monde, à ces webinars, et qui faisaient part aussi de leurs propres difficultés. Et donc, on s'aperçoit que ça peut toucher tout le monde, et ce n'est pas uniquement un problème féminin, parce que justement, on sent que parmi nos employés féminines, il y en a un petit peu marre des fois de dire « on va vous faire des formations à l'intelligence émotionnelle ». Mais on veut, c'est bien, mais ça doit être aussi pour tout le monde. L'intelligence émotionnelle, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. Et ce qu'elles veulent de plus en plus, c'est des compétences techniques, avoir accès à plus de certifications professionnelles et pas uniquement que des soft skills ou ce genre de choses.
Comme on est un petit peu juste sur le temps, on peut peut-être juste prendre plusieurs questions en même temps.
Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir ce qu'il en était pour pouvoir faire avancer l'égalité salariale, l'équité salariale, si, que ce soit vous, Marie Delaney, dans votre PME, vous comptez signer, adhérer à l'Equal Pay Alliance.
Voilà, ça pourrait il y a des chances, effectivement, que ce soit, ça se fasse, effectivement. Mais avec l'accélérateur, justement... on travaille là-dessus, enfin, c'est sur le chemin, donc oui, je pense. Ce sera une bonne avancée.
Bonjour, merci pour ces interventions. J'aurais deux questions. La première pour Capgemini. Vous avez parlé de votre objectif de 30% sur le nombre de femmes en management. Vous avez parlé de l'international. Est-ce que l'objectif, il est international ou est-ce que justement vous l'appliquez à chaque site ? Et la seconde question, c'est aussi pour Capgemini. Vous avez parlé de la remontée d'informations en cas de problème que vous sous-traitez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Et est-ce qu'on peut prendre les deux questions au premier rang en même temps, s'il vous plaît ?
Et je vais répondre en même temps, mais pour l'objectif de 30%, c'est un objectif groupe. Donc c'est vraiment tout effectif confondu.
Et comment vous le gérez justement dans les pays où justement la position de la femme et la réglementation est différente ?
Alors, on a ces objectifs groupes et qu'on décline par pays, sur les 15 plus grands pays, qui représentent à eux seuls 97% de la workforce. Hein. Et en fait, c'est parfois contre-intuitif. C'est-à-dire que le pays où les femmes sont les deux pays où les femmes sont les plus représentées, y compris dans les instances de direction, c'est l'Inde et le Maroc. Le Maroc, ils ont un CODIR 50-50. Et le pays le plus en retard, au niveau des femmes dans la workforce, mais à tous les niveaux, c'est les Hollandais. Les Hollandais, ils peinent à avoir 25%. Donc, comme quoi, c'est assez contre-intuitif et c'est lié alors à l'historique, au business model qui était un peu plus technique en Hollande. Mais en fait, parfois, on a des bonnes surprises.
Bonjour. Donc moi, je suis engagée sur la thématique de l'égalité des chances vis-à-vis du handicap, mais du coup, c'est vraiment tout est transverse. Nous, on constate qu'effectivement, les meilleurs ambassadeurs pour justement l'intégration des personnes en situation de handicap, ce sont vraiment les personnes qui ne sont pas touchées par le handicap, mais qui ont cette envie, effectivement, de faire avancer les choses. Vous en avez parlé, des hommes au top management, c'est top. Par contre, sur, par exemple, tous ces hommes-là qui, justement, seraient réfractaires à cette égalité femmes-hommes, comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Est-ce que les hommes peuvent s'engager concrètement ? Et vous l'avez dit, sur certains programmes, c'est possible. Et du coup, je voulais avoir plus d'infos là-dessus. Parce que je pense qu'effectivement, déjà dans cette salle, on est déjà beaucoup de femmes. Et je pense que tout va changer quand effectivement, on sera tous en fait engagés dans cette même énergie, même engagement. Donc voilà, c'était ma question.
On prend juste la dernière question, merci.
Rapidement, je travaille sur le même sujet que vous, ça tombe bien. Je vous posais une question pour Capgemini, mais bravo pour l'atelier. Comment vous avez articulé aussi cette progression avec les ressources humaines ? Parce que j'imagine qu'il y a une articulation particulière à avoir pour avoir un cercle vertueux derrière. Et comment ça s'est produit finalement ? Comment vous avez réussi à articuler tout ça en interne ?
On vous laisse débuter, Marie ?
Oui, alors je pense qu'il ne faut pas essayer de convaincre ceux qui sont totalement réfractaires. Bien souvent, je ne sais plus d'ailleurs dans quel atelier on a discuté de ça, c'était peut-être avec Printetic, que des fois, ce n'est peut-être pas la peine d'essayer de convaincre les plus réfractaires, c'est de les laisser avec leur idée et que justement les autres, en fait, créent un mouvement où ils vont être obligés de suivre, parce que sinon, ils se retrouveront dans leur coin tout seuls. Donc, en fait, il faut montrer l'exemple, il faut faire des choses... Et la vague va emporter tout le monde, ou presque.
Et vous trouvez que ça
fonctionne ? Mais alors, moi, je trouve que ça fonctionne, et je trouve que cette idée est excellente. Et par ailleurs, alors là, c'est le fait d'être un grand groupe, mais il y a une réglementation aujourd'hui. Il y a des choses qui viennent par la réglementation, et ça aide. Malheureusement, mais ça aide. Donc, il y a des objectifs qu'on doit tenir. Ça a commencé avec les conseils d'administration. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la parité homme-femme dans les conseils d'administration, ça commence à dater, mais il a fallu s'y mettre. Et pour s'y mettre, il a fallu chercher des femmes compétentes, évidemment, mais un peu partout. Et donc, la réglementation aide aussi à prouver aux réfractaires qu'il y a des objectifs à tenir et que ça marche. Et pour que ça marche, effectivement, le recrutement... ça démarre tôt, c'est-à-dire qu'il faut avoir des femmes en bas de l'échelle aussi et qu'on continue à les faire monter, c'est la même chose. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que la réglementation nous aide aussi pour ça. Voilà.
Et alors, je vais peut-être répondre sur les RH, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est une entité transversale, toutes les deux, on n'est pas rattaché au RH. Ça pourrait peut-être venir l'année prochaine, on verra. Mais alors, effectivement, dans certains endroits, il ne faut pas se le cacher, les RH sont bien contents qu'on s'en occupe et ont tendance un petit peu à déléguer ça. Mais dans d'autres endroits, et de plus en plus, on marche en partenariat. Parce que quand on fait un talent de programme, c'est co-porté. Quand on fait effectivement des travaux sur les bénéfices, enfin les policies sur les bénéfices, c'est co-porté. Sur la REM, c'est co-porté aussi. Donc je dirais que c'est un peu un essaimage par projet. par touche comme ça, mais qui montre que ben, finalement la collaboration elle devient de plus en plus fréquente et à tel point que ben, justement maintenant on se dit mais est-ce qu'on ne doit pas rattacher le D&I au RH parce que c'est une dimension très très importante. C'est bien, c'est un signe de progrès et d'intégration, mais en même temps, il n'y a pas que les RH qui sont concernés par la diversité, il y a aussi les achats, il y a aussi l'IT. Il faut que ça reste quand même une espèce de petit aiguillon et de force de challenge et transversal.
Merci beaucoup à vous trois. Nous sommes malheureusement contraints de s'arrêter à cause du temps. Merci à toutes et tous. Merci à vous trois pour vos interventions. On peut vous demander encore 30 secondes de votre temps pour flasher ce QR code et répondre à ce questionnaire de satisfaction. C'est anonyme, ça prend 30 secondes. Et si vous voulez poursuivre les discussions, le Pacte Mondial Réseau France est présent sur le stand 85 au rez-de-chaussée. Merci à tous.